Est-ce que la notion d'écocide, ça vous parle ?
Personnellement, pas trop.
Pas du tout.
Non plus.
Moi non plus, ça m'a.
Éco, ça fait référence à quoi ?
Pour moi, l'écologie, tout ce qui est le tri des déchets, des choses comme ça, protection de la nature.
Oui, pas la même chose, tout ce qui est vert, tout ce qui a été mis en place depuis des années.
Je pense pareil, tout ce qui est mis en place pour pouvoir préserver les ressources de la planète.
Et alors, CID ?
CID ?
CID ? Je sais pas du tout. Non, je sais pas.
Personne n'a fait de latin ?
Ah si, mais c'était il y a très longtemps.
Sidare.
Aucune idée.
C'est quoi ?
Enfin, c'est le fait de tuer.
Bonjour à compagnons dans la rue, Valérie Cabanne, porte-parole de l'initiative citoyenne européenne End Ecocide in Europe. Arrêtons l'écocide en Europe, donnons des droits à la terre, lancée depuis le 22 janvier 2013. À l'origine de cette initiative, information empruntée au site valeriecabanne.eu, 9 citoyens européens de France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal, d'Estonie, de Grèce et de Suède, soucieux de la dégradation des écosystèmes et insatisfaits de la législation internationale en place pour les protéger. Ils se sont emparés d'un outil démocratique européen, l'initiative citoyenne européenne, qui permet de proposer de citoyens à députés des propositions de loi au Parlement européen. Ils invitent la Commission européenne à adopter une loi permettant d'interdire, d'empêcher, de prévenir l'écocide, à savoir l'endommagement important, la destruction ou la perte d'écosystèmes d'un territoire donné. Échange en compagnie de Margot Cerise-Ludivine et Loïc.
En fait, éco veut dire la maison, oikos en nom grec, et c'est effectivement ce qu'on entend dans écologie, dans économie, voilà, qui parle de voilà, comment gérer sa maison ou comment écologie, comment préserver sa maison. Et sidare, donc en latin, veut dire tuer, détruire, donc ça veut dire détruire sa maison. Et vous retrouvez sid dans génocide. Et donc on cherche à ce que la destruction de la nature puisse être considérée comme un crime, au même titre qu'une destruction systématique de l'humain, par exemple.
Est-ce que, avec cette définition, vous avez un exemple en tête de quelque chose qui relèverait d'un écocide ?
Le largage du pétrole dans l'océan, le naufrage d'Erika, ce genre de choses.
Aucune idée.
Je sais pas trop. Toute l'extension des banlieues et tout ça, par exemple. Je sais pas. Quand on agrandit les villes et tout ça, ça prend sur la nature qui est autour, tout ce qui était avant l'agriculture, enfin, tout ça, ça s'extend. On utilise ces terres-là pour faire tout ce qui est ville, métropole et tout ça, les banlieues.
Pour moi, ce serait plus l'utilisation d'engrais qui va tuer certains insectes ou des choses comme ça. Du coup, ça tue aussi à une part de la nature et l'écosystème.
Là, c'est une vision franco-française.
Je pense qu'il y a pas mal de pays, par exemple dans les pays scandinaves, qui ont une vision déjà plus respectueuse peut-être de l'environnement, de la nature. Donc ça dépend des pays, je pense, la culture.
Je pense la même chose. Je pense que pour moi, l'écocide, ça ferait plus référence aux pays occidentaux. Aux occidentaux, oui. Et les pays orientaux, oui, et aussi nordiques font plus attention. C'est déjà plus poussé, plus dans les cultures peut-être.
Moi, je trouve les trois points de vue intéressants parce qu'un écocide, ça peut vraiment être sous plein de formes différentes. Donc effectivement, la catastrophe de l'Erika est un écocide pour l'écosystème marin et les côtes, hein, de Vendée, de Charente, détruisant effectivement tout le biotope. Toute la biodiversité en mer et donc le cycle du vivant. Le fait de parler donc des engrais, tu as parlé des insectes, moi je pense aux abeilles en particulier. La destruction des abeilles qui sont quand même les premiers pollinisateurs et donc comment l'humain peut survivre si on ne pollinise plus et donc si on n'a plus de fruits, si on n'a plus de légumes, hein, si on n'a plus de plantes. Effectivement, les abeilles aujourd'hui, leur population a chuté de 75% et pas seulement en Europe. Pas seulement en Europe parce que manifestement, les pesticides sont utilisés dans plein de pays orientaux comme l'Inde, les OGM aussi. Et on a aujourd'hui 1500 suicides d'Indiens par an du fait qu'ils n'arrivent plus à survivre de leur agriculture parce que c'est une agriculture qui est OGMisée. De la même façon, les abeilles en Inde ont disparu encore plus que chez nous, par exemple. Donc c'est un problème qui est mondial. Ce que Cerise disait sur l'urbanisation, elle entraîne plein de problèmes, forcément. Elle entraîne effectivement une exploitation des sols, le fait de repousser en fait les animaux sauvages dont on a besoin dans la chaîne de vie alimentaire, ça veut dire aussi une pollution. En tout cas, l'urbanisation doit être pensée de façon à pouvoir s'harmoniser avec la nature, tout simplement.
Le barrage des Trois Gorges est le plus grand projet de construction hydroélectrique au monde. Mais sa construction ignore complètement les lois de la nature. Le remplissage du barrage à sa plus haute capacité a provoqué de nombreux glissements de terrain et a forcé plus d'un million de personnes à être déplacées. Les autorités chinoises prévoient d'autres désastres écologiques.
Le projet, donc, c'est issu d'une initiative de citoyens européens. C'est un projet de loi. C'est un projet de loi que l'on veut soumettre à la Commission européenne. Le traité de Lisbonne nous permet aujourd'hui donc de soumettre des projets de loi directement sans passer par les représentants élus. Ce projet vise en fait à rendre responsables les personnes qui détruisent des écosystèmes de façon grave ou irréversible, considérant que dissocier l'écosystème de l'humanité est une grave erreur. À se dissocier constamment de la nature, à vouloir la maîtriser, la gérer, l'exploiter. On arrive aux conséquences que l'on connaît aujourd'hui. On vient d'atteindre un pic de CO2 historique. On a une fonte des glaciers, montagnes et arctiques dramatiques. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe. La dernière tornade sur l'Oklahoma montre la puissance aujourd'hui des événements climatiques qui se déchaînent. Et donc ce que l'on souhaite, c'est que des sociétés, si je prends l'exemple de Total et de l'Erica, ne soient pas seulement condamnées quand elles commettent un écocide, c'est-à-dire la destruction d'un écosystème suite à une catastrophe écologique, mais que les personnes qui ont commandité certaines décisions, certains choix stratégiques, certains choix d'investissement économique, certains choix énergétiques, puissent être sommées de répondre de leurs actes. Donc c'est très ambitieux. Mais je pense que le temps est venu de rendre le droit plus contraignant en matière de droit de l'environnement. Et pour moi, c'est totalement lié à la protection des générations futures. Et donc, c'est un droit humain que l'on tente de faire valoir en donnant des droits à la terre elle-même.
L'image met mal à l'aise. Les derniers représentants d'une tribu amazonienne. Il y a 3 ans, on leur demande de poser pour mémoire, car les Akonsu vont bientôt disparaître, et avec eux, une langue, une culture unique. La doyenne Rourou avait déjà du mal à marcher. Aujourd'hui, Rourou vient de mourir. Ne reste dans la tribu que 2 vieux hommes et 3 femmes. Mais l'extinction de la tribu n'est en rien naturelle. Pour l'ONG Survival, elle vient du défrichage de la forêt par les agriculteurs dans les années 60.
Donc, lancement d'une pétition sur Internet.
Alors, c'est pas une pétition. Ça s'apparente à un vote de type référendaire, puisqu'on va vous demander... En fait, le site donc, de récolte des soutiens est un site qui est sécurisé sur des serveurs de la Commission européenne, qui a été créé par la Commission européenne. Et il vous est demandé, par exemple, de donner un numéro d'identité qui peut être passeport, permis de conduire, carte d'identité, carte de séjour. Donc on vous demande de prouver que vous êtes citoyen européen et de prouver que vous ne votez qu'une seule fois. Parce que les pétitions à l'heure actuelle, malheureusement, vous le savez, on rentre son nom, on rentre une adresse email et on peut resigner 5 minutes après avec une autre adresse email et personne ne peut s'en rendre compte. Et le principe de l'initiative citoyenne européenne, qui a été donc créée par la Commission européenne, c'est véritablement donc de voter en faveur d'un projet. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça plus un vote qu'une pétition. Et c'est aussi pour ça que c'est plus contraignant, il faut l'accepter.
Un vote, on peut dire oui, on peut dire non. Là, on vote simplement pour dire oui. Donc,
C'est ça. On soutient, comme un référendum, on soutient. On dit qu'on est en faveur. On a besoin 1 million de signatures en 1 an. On a jusqu'au 21 janvier 2014. 1 million de signatures en Europe, avec un minimum de 7 pays qui atteint un certain quota. Pour la France, c'est 55 500 personnes. Je pense que c'est jouable. On est déjà à plus de 12 000. C'est un nouvel outil démocratique, c'est un outil de démocratie participative directe qui s'affranchit donc de nos représentants, parce que parfois on a l'impression qu'ils ne représentent pas nos intérêts, qu'ils ne sont pas assez courageux, qu'ils sont sous la pression des lobbies industriels. Et je trouve ça extraordinaire que le traité de Rome ait permis cet outil, même s'il reste effectivement parfois un peu déconcertant pour beaucoup de gens. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions et les affirmer.
Nouvel outil, nouveau comportement, sans doute quelques craintes pour certaines personnes de voir toutes ces informations revendues.
En fait, chaque pays est obligé de prévenir, par exemple pour nous la CNIL, que ce formulaire existe. Comme je l'ai expliqué, donc le formulaire est sur un site qui a été donc sécurisé sur des serveurs qui sont eux-mêmes au Luxembourg. Ensuite, il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'apporter son soutien sur un formulaire papier qui est téléchargeable sur le site, qui est www.endecocide.eu, la fin de l'écocide, endecocide.eu. Et là, donc, en allant voir comment participer, vous pouvez télécharger le formulaire et me l'envoyer d'ailleurs directement. Vous avez mon adresse pour envoyer le formulaire rempli par papier.
Hallo, mein Name ist Stephanie, komme aus Deutschland. Ich möchte gerne wissen, ob in der Bürgerinitiative, die es jetzt gibt, ob man da tatsächlich was ändern kann.
In short, yes, in theory. But the road is long and strewn with challenges, so don't expect a project to become EU law overnight.
Ce que l'on veut faire comprendre, c'est que si l'on continue à détruire l'environnement comme on le détruit, ça va engendrer des guerres pour l'eau, des guerres pour les ressources, des réfugiés climatiques en pagaille. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'effectivement, on rend la situation de plus en plus complexe et de plus en plus dangereuse pour tout le monde.
Tuvalu, 8 atolls au ras de l'eau constituent le territoire de ce minuscule État perdu au cœur du Pacifique et aujourd'hui peuplé de 9300 personnes. Si le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des océans continuent de s'aggraver, l'archipel pourrait devenir inhabitable d'ici 50 à 80 ans. Avec ces îles, c'est un peuple, une langue et une culture qui sont menacées de disparition.
Alors on va essayer de cerner par des cas précis, concrets. Vous avez cité naufrage d'un pétrolier.
Je me suis permis parce que Total a été jugé. Hein. Donc je ne cite que des... Pour l'instant, c'est pas à moi de juger qui commet des écocides. Mais il est clair que Total a été jugé, ce qui est très intéressant, j'en profite puisque vous m'en donnez l'occasion. Je félicite en tout cas la France qui est en train d'adopter la notion de préjudice écologique, qui pour la première fois reconnaît à la nature des droits sans la calculer selon une valeur marchande. Et ça c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité aussi par rapport à ça, et ce changement de mentalité me fait penser que la loi écocide que l'on propose à l'échelle européenne pourrait être... soutenu par la France, entre guillemets, les intérêts nucléaires.
Je prends un autre exemple, la construction d'un barrage.
Alors, je vous donne un exemple, parce que cette loi, en fait, elle touche qui ? Elle touche les citoyens dirigeants européens en Europe, donc les entreprises qui commettent des écocides en Europe. Elle touche des citoyens européens qui participent à des écocides en dehors de l'Europe. Et elle propose d'interdire tout produit issu d'un écocide de façon à éviter les délocalisations d'entreprises et la fuite de nos entreprises pour échapper à la loi. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que j'ai défendu longtemps, je défends encore, la cause des Amérindiens qui subissent à l'heure actuelle la construction du troisième plus grand barrage au monde, qui s'appelle le barrage de Belo Monte au Brésil. Il faut comprendre que les barrages au fil de l'eau, les petits barrages hydroélectriques, sont reconnus comme des sources d'énergie propre, mais les grands barrages qui font 115 mètres de haut, de fait, perturbe totalement les écosystèmes en place, la biodiversité. Et ce barrage est construit au détriment de, je dirais, toutes les sommations de la Cour européenne, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, des Nations unies.
Valérie Cabanne, porte-parole de End Ecocide in Europe, est l'invitée du magazine.
De l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a sommé le gouvernement brésilien de consulter les populations amérindiennes et d'obtenir leur accord pour le construire, ce qu'ils ne font pas. Voilà, pour moi, si vous voulez, quand vous parlez de barrage, je pense à ça. Je pense à cet exemple parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises françaises participent à la construction de ce barrage. Ils ont des intérêts économiques très importants. Et une loi telle qu'on la propose permettrait effectivement de clarifier les choses, un petit peu comme le contrôle sur les paradis fiscaux. Ça permettrait effectivement de sommer ces entreprises de respecter leur charte éthique, parce que souvent elles en ont. Mais quand on regarde dans les faits ce qu'elles font, elles ne les respectent pas.
Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'en est pas le fait de la construction du barrage qui détruit un écosystème, mais le fait que les populations qui résident sur le territoire de construction n'ont pas donné leur accord, c'est un peu différent.
Alors, la loi qualifie de façon différente plusieurs types de crimes. Le crime contre les générations futures, le crime d'écocide, qui est le fait de détruire un écosystème en tant que tel. Et il existe aussi le crime d'écocide culturel, qui est le fait de détruire un mode de vie traditionnel qui est dépendant d'un écosystème. Donc dans ce cadre-là, effectivement, le barrage de Belmonte pourrait être considéré comme un ouvrage qui viole plusieurs types de droits. Donc le droit de la nature à assumer son rôle pour préserver le vivant, le droit des populations autochtones à vivre comme ils l'entendent, et le droit des générations futures, parce que l'Amazonie est quand même le poumon vert de la planète, avec la forêt boréale, et le nier est un peu suicidaire.
Mais si ces populations entendent vivre comme nous, bétonner partout, changer de mode de vie, qu'est-ce qui légitime le fait qu'on dise « mais non, préservez votre cadre, votre mode de vie ?»
Non, c'est eux qui le demandent. Quand par exemple une plainte peut être déposée, elle se fera en concertation, par exemple s'il s'agit d'un écocide culturel, elle se fera en concertation avec les populations concernées. Il m'est arrivé par exemple de conseiller et défendre une communauté autochtone sur la construction d'un barrage en forêt boréale. Cette communauté a fini par faire un référendum. Ce référendum a indiqué que la population donc votait à 60% pour la construction du barrage. C'est leur choix, on n'a rien à dire dans ces cas-là. En revanche, si je peux prendre le même exemple, si on se rend compte que ce barrage, qui est le barrage de la Romaine, en pleine forêt boréale, qui est la plus grande rivière de la forêt du Québec, qui se déverse dans le golfe du Saint-Laurent, risque de totalement perturber l'écologie du golfe du Saint-Laurent et par là même l'écologie de la région, alors des citoyens peuvent très bien effectivement porter plainte au nom d'un écocide, mais pas dans ce cadre d'un écocide culturel, mais dans ces cas-là, mais dans le cadre d'un écocide tout simplement.
C'est un appel à l'arrêt des travaux sur la rivière Romaine, qui est une des dernières grandes rivières non harnachées du Québec et qui est en train de l'être. Donc c'est un appel qui est lancé avec une pétition à signer. L'objectif est de sensibiliser la population.
L'incendie de la rivière Romaine et ensuite un portage pour justement inviter à l'arrêt aux travaux sur la Romaine qui est présentement détruite pour produire de l'électricité.
Le premier grand chef de ma tribu s'appelait Aigle Noir. D'un seul coup de poing, il abattait un bison en lui brisant les reins. Aigle Noir. Guerre après guerre, les Blancs se sont installés et ont changé jusqu'au nom des hommes. C'est ainsi que dans notre village, nous avons eu George Washington, Aigle Noir. Franklin Delano Roosevelt, Aigle Noir. John Fitzgerald Kennedy, Aigle Noir. Moi, je m'appelle Aigle Noir et mon fils s'appellera Aigle Noir. Notre village s'appelait Yucatapa, l'île verte. Ils en ont fait New York. Mais moi, j'habite à Yucatapa, en plein milieu de la New York.
Souillé. Je reprends un autre exemple, une Nénette de Sibérie. Si on fait un vote, on va voir les anciens qui vont dire je suis très attaché à mon mode de vie, et les jeunes qui disent non, c'est plus ça, c'est plus possible.
Vous en avez peut-être entendu parler chez les Nénettes, cela étant dit, autant chez les Nénettes que chez d'autres populations que j'ai rencontrées, il y a beaucoup de populations qui ont été donc colonisées, autochtones, sont passées par des périodes de déculturation forcée. En général, on a demandé aux enfants de la génération des années 40 d'aller dans des pensionnats où ils ont perdu l'usage de leur langue traditionnelle, l'usage de leurs coutumes traditionnelles. Très sincèrement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les enfants de ces personnes-là, qui ont vu leurs parents souffrir, il y a des tabous, il y a eu des grands scandales, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans pas mal de pays, aussi dans ces fameux pensionnats, d'exploitation sexuelle, etc., sont en train d'essayer de faire revivre leur tradition d'origine. Mais il y a une partie de la population qui décide de vivre autrement. Si, et ça, c'est pas à moi de décider si elle a raison ou si elle a tort. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, il existe une déclaration des droits des populations autochtones. Il a fallu 25 ans pour qu'elle existe, à la demande des populations autochtones. Il existe un sommet des populations autochtones à New York chaque année. Et donc, aujourd'hui, il y a une véritable revendication pour que la communauté internationale reconnaisse leur mode de vie, qui ne sont effectivement pas toujours compatibles avec la façon dont les Occidentaux ou les pays émergents souhaiteraient vivre. En particulier la nomadité, en particulier l'exploitation d'un territoire en considérant qu'ils sont eux-mêmes... ils appartiennent à une terre et que ce n'est pas une terre qui leur appartient. Et ce concept-là, qui est un concept philosophique extrêmement puissant, change la donne complètement dans la relation de l'homme à la nature. Quand on considère qu'on appartient à une terre et qu'on n'est pas propriétaire d'une terre, on n'agit pas du tout de la même manière. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on a à réapprendre aujourd'hui.
C'est le printemps en Sibérie polaire. Mais l'estuaire de l'Ob est encore pris par les glaces qui s'étendent jusqu'à la banquise. Nyatma est un autochtone de Sibérie, un Nénets, le chef du clan des Puiko, un clan de pêcheurs. Chaque année, quand le dégel approche, Nyatma vient dégager les barques, avant que la débâcle n'emporte tout sur son passage.
Je re-questionnais cette notion du droit d'ingérence.
Il n'y a pas d'ingérence. Ce dont je vous parle, c'est défendre les intérêts de personnes qui demandent à être défendues. Point. Personne ne contraint une population à garder son mode de vie. Enfin, je ne connais pas d'histoire de ce type, en tout cas dans le droit. Les seules personnes qui ont pu contraindre des populations à un mode de vie qu'ils ne voulaient pas, en général, ça a été plutôt les colonisateurs. Mais si vous avez un exemple à me donner, donnez-le-moi, parce que je ne vois pas des défenseurs de droits de l'homme imposer à des populations de vivre selon un schéma à la Rousseau, parce que ça leur plaît. Moi, j'essaie juste d'être porte-parole de certaines causes en Europe, quand elles ne sont pas entendues, quand des Européens sont impliqués dans des scandales à l'étranger et dont personne n'est au courant, comme par exemple le barrage de Belo Monte.
Un chantier pharaonique au cœur de l'Amazonie brésilienne. Ici, 8000 ouvriers se relaient jour et nuit. La construction du barrage de Belo Monte a commencé il y a tout juste un an. Objectif, produire 11 200 MW en 2019 dans ce qui deviendra la troisième plus grande centrale hydroélectrique au monde.
Le monde est en marche, le monde se transforme.
Ah, le monde se transforme, mais... Il y a quand même beaucoup de sonnettes d'alarme qui montrent que la façon dont on se transforme...
Ça manque d'huile. Hein.
Oui, exactement, voilà, ça manque d'huile. La façon dont on se transforme, elle semble de plus en plus périlleuse. Les scientifiques le démontrent chaque jour. Ils sortent des rapports chaque jour qui sont quand même assez alarmants. Et je trouve que le fait d'avoir justement réussi par cet outil, par exemple cette initiative citoyenne européenne à se faire entendre est une forme d'espoir, parce qu'on pourrait décider que non, c'est trop tard. Beaucoup d'études nous disent que le point de non-retour, c'est 2050, qu'on a déjà utilisé 43% des ressources terrestres et que 50% est un point de non-retour. Hubert Reeves, Pas-Calais ont tous effectivement parlé de la sixième extinction comme étant inéluctable. Moi, j'ai envie d'y croire encore. Et donc, c'est pour ça que cette initiative citoyenne, je la porte haut et fort, en se disant que c'est une de nos dernières chances, peut-être, de renverser un peu la vapeur.
Vous avez évoqué la possibilité d'une sixième extinction des espèces dont pourrait faire partie le genre humain.
Il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre, une cinq extinction. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales mais disparaître, mais à 50-80%. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui se vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir. Un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années.
Les rats?
Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro. Sur le plan du rapport harmonieux, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la sixième extinction.
Place de l'homme dans la nature. Je ne sais pas quoi vous répondre, là c'est trop court pour vous répondre ça, la place de l'homme dans la nature.
Approchez-vous, hein, pas de soucis.
Il faut rapprocher ça du système économique et du système malheureusement est capitaliste en ce moment, donc c'est toute cette discussion qu'il faut avoir, la place de l'homme et de la société. Et du site. Ah, je suis désolé.
Pour affiner.
Pardon, je suis désolé.
Quoi ?
C'est mes potes qui arrivent, là.
Ah oui. Mais juste une petite minute, et puis après...
Ah ouais. Asseyez-vous.
Asseyez-vous, mais ouais, n'ayez pas peur.
C'est pas Radio Moscou.
Non.
Radio Moscou.
Non, on parle de la place de l'homme dans la nature.
Ah oui. Et là,
si vous avez quelque chose à dire...
C'est la nature qui devrait se faire du souci sur sa place par rapport à l'homme.
Voilà, qui tombe bien. Voilà quelqu'un qui va vous répondre. Parce que moi, j'étais parti sur de la politique et sur l'environnement et sur la place de l'économie dans la nature. Enfin, vis-à-vis de la nature.
Oui, ben, on a besoin de croissance pour créer des grille-pains à l'infini pour être plus heureux. Alors la nature, faudrait qu'elle comprenne, faudrait qu'elle s'adapte quand même à ce dont on a besoin. Voilà.
C'est un avis, hein. Un peu décalé.
Et je n'ai rien à rajouter.
Bon, on va vous laisser profiter de ce moment-là. Votre prénom ?
Michel.
Michel et ?
Jean-Baptiste.
Moi, je vais juste rajouter que je trouve toujours intéressant qu'on mette l'homme et la nature de façon séparée et que personne ne pense à considérer que l'homme fait partie de la nature.
Oui, bah, c'est un sujet qu'on devrait traiter sans parler d'écologie, mais en agissant sur sa consommation et sa vision de la vie en profondeur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, comment expliquer ça ? Ouais, bah, revoir nos activités par rapport à des choses qui ne sont non polluantes, refaire de la musique en sachant jouer d'un instrument, passer des moments sympas sans avoir besoin d'un instant consommation ou d'électricité, et plus largement voir la politique bah, par rapport à des bulletins de vote ou des trucs qui se font via internet ou Facebook, mais recentrer autour de petits comités, à partir de là refaire une démarche qui part du petit pour aller jusqu'au grand, et on se rendra compte qu'on n'a plus besoin de la technologie telle qu'on nous la présente aujourd'hui comme un instrument d'émancipation. Ce qui est faux, là.
Il y a un homme qui nous montre l'exemple, qui s'appelle Pierre Rabhi.
La décroissance, moi, ça me paraissait... Pendant longtemps, bon, ben, j'étais un peu dans une espèce de chose pas très clarifiée en moi. Tout ce que je savais, c'est que vivre sobrement m'a fait beaucoup de bien.
Merci à Valérie Cabane, porte-parole de End Ecocide in Europe. Merci à Margot, Cerise, Ludivine, Loïc, Michel et Jean-Baptiste pour leur libre participation à ce reportage enregistré à Nantes, dans la rue, à l'occasion du 5e Forum des droits de l'homme.
Rendez-vous donc sur le site www.endecocide.eu. Et de là, donc, vous aurez accès à toute la documentation pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis, vous verrez un bouton pour voter qui vous emmènera sur ce serveur sécurisé. Donc, vous verrez, ce sera HTTPS de la Commission européenne, qui est un formulaire à remplir en ligne avec un identifiant. Si vous n'êtes pas allé jusque la procédure correctement, vous ne verrez pas apparaître une fenêtre qui vous donnera un numéro d'identifiant, un numéro de votant. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, c'est qu'il faut que vous recommenciez parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la procédure. Voilà, donc 5 petites minutes de votre temps peuvent effectivement contribuer à changer l'avenir des générations futures et pour ceux qui ne sont pas trop vieux, notre avenir à nous tous.